Merci. Outre une amitié très ancienne avec Pierre Rosanvallon, ce qui me vaut probablement cette participation à vos travaux d'aujourd'hui, je le suppose, c'est mon expérience de voyageur institutionnel. En 30 ans, j'ai en effet eu la grande chance de connaître, de pratiquer, de vivre, de diriger dans des modes de gouvernance publique très différents, dans l'ordre, si je puis dire, en commençant par Paris, qui est en quelque sorte le solide, Paris le temple du statut national, et puis ensuite Bruxelles, le liquide, le seul avatar aujourd'hui incarné de la version supranationale de cette gouvernance internationale, et puis enfin à Genève, le gazeux, même si il y a dans le système international encore plus gazeux que l'Organisation mondiale du commerce, et j'y reviendrai dans un instant. Alors, à la réflexion, cette pérégrination institutionnelle est peut-être davantage une pérégrination dans le temps qu'une pérégrination dans l'espace, comme si, en quelque sorte, j'étais parti de l'abouti pour remonter ensuite progressivement aux prémices, en subissant d'ailleurs à chaque fois un espèce de choc qui est celui qu'on ressent quand on passe d'un état à l'autre, un peu comme les romans de science-fiction, quand on remonte le temps et qu'on est transporté d'un seul coup dans une autre période. Et c'est un peu ça que j'ai vécu à plusieurs reprises. C'est en quelque sorte ce qui m'a mené à réfléchir un peu sur ces questions de gouvernance internationale, en plus de la nécessité de réfléchir sur ma propre pratique. Et donc, c'est de cette expérience que je voudrais tirer les quelques points très brefs ce matin pour vous. Trois points très schématiques pour contribuer à la réflexion. Un premier qui est encore en quelque sorte une description d'un modèle très simple et très classique des systèmes de gouvernance. Un deuxième point qui va consister à essayer de positionner à la fois l'Union européenne et l'Organisation mondiale du commerce à l'intérieur de ce modèle classique. Et puis un troisième point qui consiste à suggérer quelques paramètres moins classiques qui, à mon sens, doivent retenir l'attention de ceux que ces questions intéressent, qui sont évidemment fondamentales pour les politiques de l'avenir, parce que la vérité n'est pas toujours sous le réverbère des présentations classiques. Alors, d'abord, premier point, un modèle simplifié de gouvernance avec trois États et sept paramètres. Je ne vais pas rentrer trop longtemps dans les détails. Les trois États, c'est ceux que je décrivais à l'instant. Le statut national, d'un côté, l'international en jaune, l'international westphalien, hein, modèle 1648, où la souveraineté des États-nations leur donne toute liberté de se coaguler ou non, de passer ou non des accords entre eux et de décider ou non entre eux telle ou telle coalition spécifique, qui sont celles d'ailleurs qui ont donné naissance au système international dans lequel nous vivons aujourd'hui. Entre les deux, un état intermédiaire, entre le solide et le gazeux, que j'ai appelé tout à l'heure liquide, le supranational, j'y reviens dans un instant, les sept paramètres extrêmement classiques, hein, et vous allez retrouver dans ces sept paramètres une grammaire qui a été déjà largement utilisée ce matin par Mireille Delmas-Marty ou par Pierre Audin-Vallon, trois qui sont d'ordre organique, la description, l'organisation des pouvoirs entre eux, le législatif, l'exécutif, le judiciaire, et puis quatre qui sont, comme disait Pierre Audin-Vallon tout à l'heure, plutôt de la nature de l'output, c'est-à-dire des résultats, l'effectivité, la capacité à créer des normes et à les mettre en force, la cohérence, dont Mireille Delmas-Marty a parlé ce matin, qui est à la fois une capacité, une nécessité de coordination et d'arbitrage entre intérêts, entre secteurs, entre champs de la vie publique différents, la sécurité versus la liberté, la sécurité versus l'initiative, pour prendre des exemples très brefs. Évidemment, un paramètre de solidarité qui est la capacité des systèmes de gouvernance à entretenir par à la fois des symboles et du réel un sens de la communauté, une forme de cohésion sociale. Et enfin, la légitimité dont Pierre Audin-Vallon vient de parler. Et je n'ai rien à rajouter aux pistes extrêmement intéressantes, à mon avis, qu'il est en train d'ouvrir pour cette réflexion. Que le système stato-national soit le plus achevé dans tous ces domaines, en quelque sorte, ne fait pas de doute. Qu'à l'inverse, le système international soit celui dans lequel chacun de ses paramètres est à son niveau le plus faible d'activité, ne fait pas non plus de doute, puisque c'est la définition du système westphalien qui est né en 1648. Rien de tout cela ne peut exister sans la volonté d'un État-nation souverain. Et cette volonté, elle s'exprime ou elle ne s'exprime pas, elle s'est exprimée extrêmement lentement, de manière partielle, par exemple en faisant en sorte que les organisations internationales soient spécialisées en quelque sorte niant a priori tout problème de cohérence. D'où d'ailleurs cette très grande difficulté que des gens comme moi ont à expliquer ce que nous faisons, quand on nous dit « oui, mais ce que vous faites n'est pas cohérent avec ce que fait l'Organisation internationale du travail ou l'Organisation mondiale de la santé ou tel accord spécifique sur le changement climatique », qui est une critique évidemment importante, la théorie du système westphalien, c'est qu'il n'y a pas de problème de cohérence dans le système international, puisque toutes ces organisations sont le produit de la volonté des États, et que, par définition, elles sont cohérentes entre elles, parce qu'elles sont la coalition d'éléments eux-mêmes cohérents, qui sont les États, comme s'il y avait une espèce de transitivité de la cohérence, par le fait que ce sont les États-nations qui sont à l'origine, qui sont les auteurs de ces organisations. Entre les deux, un modèle supranational. Celui-ci, disons, est un modèle extrêmement classique. En gros, le modèle marché commun, années 60, hein, dans lequel il y a une mutation extrêmement importante, au sens mutation d'espèce, par rapport au système international, hein, puisqu'il y a des compétences qui sont attribuées en plénitude à un organe ou à un système supranational. Donc c'est un espace de gouvernance entier que l'on crée, qui se superpose à l'espace de gouvernance nationale, avec un appareillage institutionnel extrêmement sophistiqué dès le départ, un législatif, un exécutif, un judiciaire, dans le cas du marché commun de l'époque. On franchit aussi la barrière des espèces en prévoyant que les décisions peuvent être prises à la majorité, quelle que soit la manière dont on calcule cette majorité, le passage de l'unanimité typiquement westphalienne à la majorité est évidemment un franchissement de ligne extrêmement important. Donc tout ceci, c'est en quelque sorte le saut technologique qui est apparu dans les années 50 et 60 en Europe. Pour autant, on ne va pas jusqu'à un système analogue au système stato-national. Par exemple, à l'époque, la dimension de solidarité est extrêmement faible. Le budget communautaire dans les années 50 ou 60, c'est un tout petit budget. Par exemple, en matière de législatif, on démarre avec un système dans lequel c'est la chambre haute qui a tous les pouvoirs, celle des États, et la chambre basse qui en a très peu, celle des peuples. Elle est d'ailleurs tellement peu chambre des peuples qu'au début, elle n'est même pas élue par les peuples, c'est une assemblée parlementaire qui est composée de députés, de parlementaires qui sont désignés par les parlements nationaux au départ de l'Assemblée parlementaire européenne. Et donc, par exemple, dans cette partie législative, on voit bien que le stato national, c'est un système stable en général où il y a deux chambres, une qui représente les territoires et une autre qui représente les peuples. Dans le système international, il n'y a que la représentation des territoires. Ce sont des systèmes comme le mien, qui est système monochambre, où il y a une seule instance de décision qui est composée de représentants des membres, des États membres ou des membres selon les organisations. Et on voit bien que dans le système européen des origines, on était un peu à cheval entre les deux, et on verra tout à l'heure qu'il a évolué. Donc, quelque part entre les deux, y compris par exemple sur le plan du judiciaire, puisque sans doute à l'origine de la communauté ou l'Union européenne, sans doute est-ce qu'on a créé une cour de justice en lui donnant un certain nombre d'attributions, mais vous savez sans doute, y compris dans le cas français, que la question de savoir si ces décisions d'ordre judiciaire dans l'ordre communautaire s'appliquaient directement dans le système judiciaire et juridique français est restée assez longtemps discutée. Donc voilà ce modèle extrêmement simple, d'où je pars, si je puis dire, pour ne pas être long, le gazeux, le liquide, le solide, et comme si, en quelque sorte, le gazeux, ce sont des molécules éthanations qui bougent tout le temps, les unes par rapport aux autres, et qui se combinent de manière aléatoire, non prévisible, dépendant de la volonté des États en question. Oui, on conclut des traités, certes. On peut aussi les déchirer, très bien, mais on en passe d'autres. Et on en revient au principe fondamental de la diplomatie westphalienne qui court encore profondément dans le monde d'aujourd'hui, qui est que, disons, la devise de base du diplomate, c'est celle selon laquelle, dis-toi dans toute ta vie professionnelle, que ton pays n'a ni ami ni ennemi éternel. Ça, c'est l'expression de ce monde brownien, en quelque sorte. Et puis, à l'autre côté, ce sont des mêmes molécules, en quelque sorte, qui se sont existées dans l'histoire, mais elles se sont petit à petit cristallisées en fonction de conditions de température, de pression, conditions historiques différentes. Deuxième point qui va consister très rapidement à essayer de positionner l'Union européenne d'aujourd'hui et l'OMC dans cette grille simple. Donc vous retrouvez les mêmes paramètres, vous retrouvez les états de base, le rouge, le bleu et le jaune, et vous trouvez entre le supranational et le stato national de l'Union européenne, je parle de l'Union européenne modèle 2009, celle du traité révisé, simplifié, déconstitutionnalisé, enfin, quel que soit le vocabulaire que l'on utilise, mais enfin, celui qui est en cours d'être soumis à ratification, quelque part entre les deux, pas d'ailleurs de manière totalement homogène, et je vais y revenir, et puis entre l'international gazeux westphalien et le supranational liquide, voire liquide version solide, Union européenne modèle 2009, l'Organisation mondiale du commerce. Alors, comme vous le voyez, tout ceci n'est pas totalement homogène. L'Union européenne n'est pas totalement violette, qui est un mélange de bleu et de rouge. Il y a des endroits où c'est rouge et des endroits où c'est bleu. Et l'OMC n'est pas totalement verte, qui est un mélange de bleu et de jaune. Il y a des endroits où c'est bleu et des endroits où cela reste jaune. Alors, expliquons-nous un peu là-dessus. Par exemple, le législatif Union européenne, dans la version 2009, il est bicaméral. La Chambre des peuples est quasiment à égalité avec la Chambre des États. C'est quelque chose qui n'est pas apparu, compte tenu de, notamment en France, compte tenu de ce qui a fait le débat sur le traité constitutionnel à l'époque du référendum, parce que les Français ne s'intéressent pas beaucoup à ce genre de questions, mais qui a retenu beaucoup d'attention ailleurs. Quand on examine de près les pouvoirs du Parlement européen dans le nouveau traité constitutionnel, ils sont considérablement élargis. Si on en veut un exemple que je connais bien, c'est celui de la politique commerciale de l'Union, qui, jusqu'à ce traité constitutionnel, était une politique monocamérale. Seul le Conseil des ministres était habilité à prendre des décisions en matière de politique commerciale, le Parlement européen n'ayant qu'un avis consultatif. Ceci est complètement bouleversé par le projet de traité qui est maintenant sur la table, et il y a bien d'autres domaines où c'est le cas. Donc c'est un des domaines dans lequel l'Union européenne a évidemment beaucoup progressé. Mentionnons aussi comme autre exemple le fait qu'on passe à la double majorité, c'est-à-dire qu'on ne regarde plus seulement une majorité des États au sein du Conseil des États et une majorité des parlementaires au sein du Parlement européen dans le système de codécision entre le Parlement européen et le Conseil des ministres, mais au Conseil des ministres, on fait entrer la variable peuple, hein, puisque maintenant, on est sur une double majorité, nombre d'États, pourcentage de la population totale de l'Union, ce qui, évidemment, franchit un pas énorme dans l'éloignement du système westphalien, puisque le fait qu'on prenne en compte le nombre des États, quelle que soit la manière dont ils sont pondérés, n'est plus qu'une variable parmi d'autres à l'intérieur de la Chambre, qui est celle qui représente les États. Donc je pense, et je ne vais pas détailler tous les exemples, on pourrait le faire case par case et ligne par ligne. À l'autre bout, l'OMC, en matière législative, elle n'est pas totalement jaune, alors qu'elle, d'un certain point de vue, elle pourrait l'être, compte tenu du fait que les décisions s'y prennent par consensus. Mais elle n'est pas non plus bleue, même si elle a un périmètre d'action dans la régulation de l'échange international qui lui donne en quelque sorte une place probablement prééminente par rapport à d'autres systèmes de production de la norme internationale. Je précise d'ailleurs au passage, on y reviendra peut-être dans les questions, que consensus et unanimité, ça n'est pas tout à fait la même chose. Je ne rentre pas dans l'explication, on pourra le faire, mais notons-le parce que souvent ça peut prêter ambiguïté. Mais à l'OMC, c'est monocaméral et c'est une chambre des membres de l'OMC, des États membres plus les membres, parce qu'il se trouve qu'il y a trois membres de l'OMC qui ne sont pas des États, qui sont des territoires douaniers autonomes. Enfin bon, dans le cadre de cet exercice, je n'ai pas à prendre trop de précautions diplomatiques. L'exécutif, même chose, il est, dans le cadre de l'Union européenne, quelque part entre le supranational et le statonational, c'est-à-dire qu'il y a évidemment des compétences exécutives beaucoup plus importantes maintenant qu'elle ne l'était dans le modèle le marché commun années 50, mais cet exécutif reste très contrôlé par le législatif bicaméral, notamment par tous les dispositifs qu'on appelle les dispositifs de comitologie. Là aussi, je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, mais de fait, la Commission européenne a une autorité exécutive qui est assez liée à l'autorité législative dans la mise en œuvre d'un certain nombre d'actes qu'on qualifierait en droit constitutionnel français de réglementaires, même si c'est une distinction qui est étrangère à beaucoup d'autres droits constitutionnels européens. Donc c'est un exécutif fort, mais qui est quand même, d'un certain point de vue, retenu par le législatif, et notamment par la part du législatif qui comporte la représentation des États-nations. À l'inverse, l'OMC, de ce point de vue-là, est totalement jaune. En tant que directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, je n'ai d'autorité exécutive officielle que de manière extrêmement limitée. L'idée, c'est que le principe, parfois fiction, mais parfois une vraie réalité, c'est que tout ceci est conduit par les membres de l'organisation, et donc il n'y a pas en quelque sorte de délégation supranationale à quelqu'un ou quelque chose qui n'est ni les membres ni la représentation exacte des membres pour guider ou produire de la direction ou de la norme. Enfin, pour terminer et aller relativement vite aussi sur le judiciaire, j'ai mis le judiciaire de l'Union européenne en rouge, comme du statut national, puisqu'il est maintenant établi que le fonctionnement du système judiciaire européen, et notamment de la Cour de justice, est totalement intégré, qu'il n'y a aucune solution de continuité entre le système judiciaire européen et les systèmes judiciaires nationaux. Et donc, de ce point de vue-là, on a complètement basculé dans le système statut national. Rien n'est plus retenu, si je puis dire, comme frontière entre les deux. Et j'ai mis l'Organisation mondiale du commerce en vert et pas en jaune, parce qu'elle est, de ce point de vue-là, presque bleue, si j'allais dire, en raison de l'existence de son mécanisme de règlement de différends, qui est effectivement très original dans le système westphalien, puisqu'il est à la fois très constitué, très sophistiqué, avec deux niveaux, un premier niveau et un niveau organe d'appel. Il a la caractéristique particulière de pouvoir mettre en place des sanctions, ce qui est rarissime dans le système de règlement de différends à l'international. Pour autant, il n'est pas bleu, par exemple, parce que seuls des États peuvent attaquer des États devant le mécanisme de règlement des différends de l'OMC. Donc ça reste un système, de ce point de vue-là, interétatique, international classique, des individus, des entreprises, des groupes d'intérêts ne peuvent pas intervenir dans ce mécanisme de règlement différent. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est essayer de faire intervenir un État, un membre, contre un autre membre, et c'est évidemment une distinction importante. Pour prendre un autre exemple qui n'est pas celui de l'Union, où depuis le début, en gros, les individus peuvent saisir la Cour de justice, la Cour de justice peut juger des différends entre les institutions elles-mêmes, il peut y avoir des différends entre le Parlement et le Conseil des ministres, et en ce sens, la Cour de justice est à la fois Cour constitutionnelle et Cour de droit commun, mais même dans des systèmes intermédiaires comme l'accord de libre-échange nord-américain entre le Mexique, les États-Unis et le Canada, il y a un mécanisme de règlement différent, mais ce mécanisme de règlement différent est ouvert à des acteurs non étatiques, alors que dans le système de l'OMC, il ne l'est pas. Effectivité, j'ai laissé l'Union européenne dans ce mi-chemin violet, en quelque sorte, parce que je crois que, et ce qu'a dit Mireille Delmas-Marty tout à l'heure, ne mérite pas, je crois, de plus amples commentaires. J'ai mis l'OMC en jaune, dans la mesure où, effectivement, par rapport à ses collègues dans le système de la gouvernance internationale, l'Organisation mondiale du commerce se distingue par le fait qu'elle a un corps de règles qui est extrêmement précis, extrêmement volumineux, extrêmement sophistiqué, et évidemment, il y a un lien entre aller vers le bleu dans le judiciaire et aller vers le bleu dans l'effectivité, parce que, comme chacun sait, faire des normes, c'est très bien, mais l'essentiel de leur valeur, c'est dans la crédibilité qu'elles ont, dans l'encadrement et le comportement des comportements. En matière de cohérence, j'ai laissé l'Union européenne aussi entre les deux. Cette cohérence est, de fait, assurée aujourd'hui de manière mieux que supranationale, mieux qu'elle ne l'était au départ, au niveau du collège des commissaires ou du président de la Commission, puisque au niveau de la Commission, L'évolution institutionnelle consiste à remplacer la collégialité par la présidentialisation de la Commission européenne. C'est notamment dû à l'augmentation exponentielle du nombre de commissaires qui a accompagné les élargissements. C'est moins vrai d'ailleurs du côté du Sénat des États membres, le Conseil des ministres, qui continue à siéger en formation spécialisée. Et vous savez sans doute qu'au moment de l'élaboration du traité constitutionnel, il y a eu une grande bagarre pour savoir si, comme un Sénat normal, il ne devait pas y avoir une formation générale dans laquelle tous les sujets venaient devant le Sénat, quitte à être préparés par des commissions sénatoriales sur les transports, l'agriculture, la pêche, que sont en fait les conseils des ministres des transports, de l'agriculture et de la pêche. Et là, il y a eu un peu de turbulence dans le système, et finalement, on est resté au système précédent. Il n'y a pas de formation générale du Sénat. Il y a une formation générale du Parlement, où les partis, les citoyens sont présentés, mais il n'y a pas de formation générale du Sénat des États membres de l'Union. J'ai mis l'OMC en vert, parce que autant le système westphalien, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne produit de la cohérence que, par exception, lorsque les membres des organisations auxquelles ils appartiennent décide d'être cohérent, et je dis que c'est par exception parce que ça n'est pas souvent le cas, soit qu'ils en soient difficilement capables pour des raisons de qualité de gouvernance, soit le plus souvent parce qu'ils décident de ne pas être cohérent. La souveraineté dans cette acception se définit comme le monopole de l'incohérence. Tout le monde doit être cohérent dans le système westphalien, sauf les États qui ont le droit de ne pas dire la même chose à l'Organisation mondiale du commerce, à laquelle ils appartiennent, à l'Organisation mondiale de la santé, à laquelle ils appartiennent, à l'Organisation internationale du travail, auquel ils appartiennent, ou au protocole de Kyoto sur le changement climatique, auquel certains appartiennent. Donc ça, il y a là, évidemment, un sujet de cohérence important. Au demeurant, l'Organisation mondiale du commerce, probablement d'ailleurs parce qu'elle est plus récente que beaucoup de ses consoeurs dans le système international, a des dispositifs de cohérence plus importants que d'autres. Soit qu'ils aient été constitutionnellement établis, des passerelles entre l'ouverture des échanges, le droit commercial international, et des choses comme l'environnement ou la santé, qui sont dans la charte de l'OMC de 1994, on dit clairement, vous avez le droit, notre mission, notre core business, c'est l'ouverture des échanges, mais les membres de l'OMC peuvent mettre des obstacles à l'ouverture des échanges pour des motifs de préservation de la santé de leurs ressortissants ou pour des motifs de conservation des ressources naturelles. Donc, dans ce domaine, il y a des dispositions institutionnelles, des passerelles écrites. Et puis, il y a aussi, évidemment, et c'est là l'importance d'avoir un mécanisme de règlement des différends puissant en parallèle, il y a aussi la jurisprudence du mécanisme de règlement des différends, même si les diplomates n'aiment pas qu'on parle de jurisprudence dans ce domaine. La vérité, c'est qu'il y a une jurisprudence, et notamment de l'organe d'appel. Et si on prend l'exemple de l'environnement ou de la santé, il est clair que l'exception à l'ouverture des échanges telle qu'elle est prévue par l'article 20 du code bien de l'OMC de 1994 a été élargie par le système jurisprudentiel. Et ceux d'entre vous que ça intéresse pourront regarder une décision de la Cour d'appel de l'OMC, de l'organe d'appel de l'OMC de la semaine dernière, qui pour l'instant est passée un peu inaperçue, parce qu'il faut tant que les juristes s'y mettent, et les juristes sont toujours lents à tremper leurs plumes pour leurs commentaires, mais dans une affaire entre l'Union européenne et le Brésil sur les exportations de pneus rechappés, dans lequel, en gros, je fais attention à mes propos parce qu'ils peuvent avoir une portée publique, dans lequel, en gros, l'organe d'appel a assimilé la protection de l'environnement et la protection de la santé. Hein, ce qui, évidemment, va donner lieu à des commentaires selon lesquels l'exception environnementale et sanitaire est maintenant plus large qu'elle ne l'était avant. Ça n'est pas le cas sur le social. D'une part parce qu'il n'y a pas la passerelle institutionnelle telle qu'elle avait été construite pour l'environnement ou pour la santé en 1994. D'autre part, et ça vous en parlerez sans doute demain, et je verse ce petit grain dans votre récolte de demain, sans doute parce que au plan mondial, la notion de bien public s'applique assez bien à l'environnement, elle s'applique assez facilement à la santé, elle s'applique plus difficilement au social. Qu'est-ce que c'est qu'un bien public mondial en matière de social ? C'est une question qui est plus difficile à résoudre si vous mettez autour de la table un Chinois, un Brésilien, un Américain et un Européen, pour prendre cet exemple. Ils vont assez vite arriver d'accord sur le fait que la santé et l'environnement, c'est un bien public mondial. Sur le social, je peux vous garantir que la discussion sera nettement plus longue. J'arrête là pour ne pas être trop long, et j'en termine sur un troisième point qui consiste à évoquer quelques paramètres qui ne sont pas ceux-là, qu'on ne regarde pas beaucoup d'ordinaire, qui n'attirent pas en général l'attention des spécialistes, mais qui, à mon avis, méritent d'être signalés, parce que quand on les prend en compte, ça a la vertu de déformer un peu les visions classiques telles que celles que je viens d'utiliser à l'instant. Alors j'ai pris quatre exemples, on pourrait en prendre plus, mais j'ai pris quatre exemples pour lancer des pistes. Le premier, c'est de regarder le pouvoir d'initiative. Au fond, quand on regarde la science politique, toute la théorie qui est écrite sur ces systèmes, et il commence à y en avoir beaucoup, les gens s'intéressent énormément à savoir comment on prend la décision. Qui prend la décision? Comment elle est prise? Est-ce que c'est la majorité? Est-ce que c'est à l'unanimité? Je crois qu'il faut déplacer un peu le réverbère et qu'il faut plus souvent regarder qui fait les propositions qui sont sur la table en amont d'un processus de décision. Et quiconque a fait un peu de syndicalisme étudiant ou un peu de politique ou un peu d'assemblée de copropriétaires, pour prendre ces trois exemples, sait que la délibération est assez fortement influencée par le point de départ. C'est un point fondamental, et je peux vous dire que, enfin, disons, les quelques 30 années de pratique que j'évoquais tout à l'heure pourrait me permettre de développer pourquoi c'est fondamental en quelques heures ou même en deux demi-journées. Il est d'ailleurs tellement fondamental qu'il n'avait pas échappé au génie des fondateurs du traité de Rome qui ont confié non seulement le pouvoir d'initiative à la Commission européenne, mais même le monopole de l'initiative. Hein ? Ce qui fait d'ailleurs que de ce point de vue, le système européen, il est au-delà du statut national dans la capacité qu'il donne à l'exécutif de contraindre le travail du législatif. Il n'y a pas un système statut national dans le monde dans lequel l'exécutif a autant le monopole de l'initiative législative que dans ce système de l'Union européenne. Alors pourquoi est-ce que ça a été fait ? Ça a été fait... et on comprend bien à la pratique, ça a été fait pour en quelque sorte dénationaliser, dénaturaliser, désodoriser tout système comme celui dans lequel je vis aujourd'hui à l'Organisation mondiale du commerce, où les propositions émanent des membres du système et sont évidemment toutes taillées pour être servir au mieux les intérêts de l'État qui fait la proposition en question. Et ça, les auteurs du traité de Rome l'avaient très bien compris. Et quand on pratique l'Organisation mondiale du commerce, on voit très bien les effets de tout cela. Dès lors que le principe de la proposition législative est laissé aux 151 membres de l'Organisation mondiale du commerce, ils mettent forcément sur la table quelque chose qui est bon pour eux. Ne serait-ce que parce que leur capital ne va jamais leur laisser une marge de négociation à ce moment-là du processus de décision. Et donc, vous vous retrouvez avec une collection de choses qui sont totalement pro-domo, et vous êtes obligé de mettre en place un système de lavage qui dure un temps fou pour que ces propositions passent à la machine à laver de la désodorisation nationale pour, à un moment, commencer à ressembler à ce que peut être une proposition d'intérêt général. Hein, si je prends l'exemple de la négociation actuelle, on en est à peu près à ce stade, mais il faut 6 ans de machine à laver de propositions nationales. Et ça, c'est vrai que les auteurs du traité de Rome ont très bien vu que confier à un tiers de confiance, c'est-à-dire à quelqu'un qui ne peut pas être suspecté dans le système de servir tel ou tel intérêt, le monopole de l'initiative, fait évidemment gagner énormément de temps. Et donc, ça, c'est quelque chose à regarder de très très près. Je le relis très précisément à ce que Pierre-Rosan Vallon disait tout à l'heure quand il parlait de la capacité de créer de la légitimité par distanciation. Hein ? C'est parce qu'ils sont distanciés que les membres de la Commission européenne ont la légitimité du monopole de l'initiative. Hein ? Et on peut regarder dans le système international d'autres systèmes analogues. L'OMC, de ce point de vue-là, reste officiellement, en tout cas, officiellement dans le jaune, dans le bottom-up, comme on dit dans la langue de Molière, même si, dans la réalité, le secrétariat travaille, et notamment à la demande des négociateurs. Deuxième exemple, bref, d'un domaine dans lequel il faut regarder de près, la capacité de surveillance. Souvent, quand on regarde ces dispositifs, quand on regarde ce que les commentateurs en disent, ils disent qu'il y a le pouvoir de créer la norme, et puis il y a le pouvoir de la mise en œuvre. Et dans la mise en œuvre, on passe directement au judiciaire, comme s'il n'y avait que le juge qui était le garant de la mise en œuvre d'une norme. Et éventuellement d'ailleurs, au fait qu'il y a des sanctions ou pas de sanctions pour évaluer le niveau de crédibilité du judiciaire. C'est une approche extrêmement partielle. Tout ce qui touche à la surveillance de la mise en œuvre des normes dans des dispositifs non stato-nationaux est essentiel pour caractériser la qualité de la gouvernance. Si vous prenez le système européen, c'est la Commission européenne qui fait la police. C'est la Commission européenne qui rappelle les États membres de l'Union à l'ordre s'ils n'appliquent pas telle ou telle disposition à laquelle ils se sont engagés. C'est la Commission européenne qui met en route des procédures d'infraction. Ça s'appelle une procédure d'infraction. On prend une décision et on envoie du papier bleu à un État membre en lui disant « État membre A, tu devrais faire ci, tu fais ça, il faut que tu te mettre en ligne. L'État membre discute, il a des problèmes, parce qu'évidemment, s'il n'a pas fait ce qu'il s'était engagé à faire, c'est parce qu'il a des problèmes à la maison, donc ça prend un peu de temps, bon, et puis ça peut se terminer à la Cour. À ce moment-là, c'est la Commission européenne qui saisit la Cour, c'est la Commission police du système qui saisit la Cour et qui traîne l'État membre devant la Cour. La Cour décide, et même maintenant d'ailleurs, depuis quelques années, il y a même un système d'astreinte qui fait que si un État membre n'applique pas une décision de la Cour, il doit payer des astreintes, ce qui est nouveau d'ailleurs dans le système communautaire. Donc là, il y a un énorme champ qui est la capacité d'organes de nature internationale ou supranationale à mettre en œuvre, surveiller la mise en œuvre. À l'OMC, à l'inverse, d'un certain point de vue, rien de tout ça. Ce sont les États qui font la police des États. Moi, en tant que directeur général de l'OMC, je n'ai aucune compétence pour surveiller ce que fait un État ou un membre de l'OMC, pour utiliser le langage diplomatiquement correct, ni pour surveiller de mon propre chef, ni pour tirer de mon propre chef des conséquences en termes de procédure de la constatation que je ferai que ce membre ne se conforme pas à ses obligations. C'est réservé aux membres. Seuls les membres peuvent traîner les membres. y compris, d'un certain point de vue, en matière de surveillance, avec des systèmes de ce qu'on appelle des notifications croisées, où les membres de l'OMC notifient, par exemple, une nouvelle législation sur les produits chimiques au titre de l'examen des obstacles aux échanges, et un autre membre peut faire une contre-notification du système qui a été notifié avec d'autres éléments qui n'auraient pas été notifiés et qu'un autre membre demande à notifier. Bon, ce sont des systèmes assez complexes. Donc, d'un certain point de vue, il n'y a pas de policiers dans le système, sauf les membres qui font la police entre eux, le système de revue par les pairs. Mais d'un autre côté, on a d'ores et déjà dans le système OMC des systèmes comme les revues de politique commerciale de chacun des États membres, qui sont des examens périodiques de l'ensemble de la politique commerciale de chacun des États membres et qui, là, sont nourris par des constatations, des rapports qui sont faits par le secrétariat de l'OMC et pas par les membres de l'OMC. C'est discuté par les membres, mais il y a sur la table un diagnostic, une photo du système qui provient du secrétariat. Pourquoi ? Parce que dans le cas de l'examen de la politique commerciale des membres par les membres, on s'est tout de suite rendu compte que si c'était les membres qui devaient avoir l'initiative de la position, c'était impossible. Il fallait là, un tiers de confiance, quelqu'un qui, au nom de l'intérêt général, fasse une espèce de radiographie objective, au sens où Pierre Rosanvallon l'entendait tout à l'heure. Avant-dernier exemple qu'il faut à mon avis regarder de près, c'est tout ce qui est possibilité de normes dérivées. J'entends par normes dérivées la création de normes de manière autonome par les organisations en question, sans avoir à passer par les procédures dans lesquelles la norme primaire doit passer. Les procédures dans lesquelles la norme primaire doit passer dans l'Union européenne, primaire, ce sont les traités, primaire tout court, ce sont le passage devant le Parlement européen et devant le Conseil des ministres, mais il y a évidemment toute une possibilité de droits dérivés par rapport à ça, et c'est évident dans le cas de l'Union européenne, dans ce qu'on appelle l'acquis communautaire, qui est ce que les membres qui rejoignent l'Union européenne doivent avaler du point de vue du stock d'obligations qu'ils contractent en rentrant dans l'Union européenne. Donc il y a évidemment au niveau communautaire une grosse capacité de droits dérivés. À l'Organisation mondiale du commerce, il y en a un peu. Alors, c'est très hétérodoxe, c'est très politiquement incorrect de dire que dans une organisation de type westphalienne comme l'Organisation mondiale du commerce, sauf, en gros, par son mécanisme de règlement différent, il y a des possibilités de droits dérivés, mais il y a, exemple, les accessions à l'OMC ne sont pas ratifiées selon les procédures constitutionnelles des membres de l'OMC. Ce sont les organes de l'OMC, la conférence ministérielle ou le conseil général de l'OMC, qui sont les ministres représentés au niveau des ambassadeurs, qui prend les décisions, qui valide les accessions, y compris tous les engagements que les pays qui rentrent à l'OMC prennent. Donc là, on est dans un exemple où il n'y a pas besoin de revenir, si je puis dire, à la législation primaire, c'est-à-dire à la ratification. Il y a d'autres exemples sur lesquels je n'insiste pas, dans l'administration de certains accords, de certaines exceptions, notamment exceptions en faveur des pays en voie de développement. Dernier point rapide, la désignation des dirigeants, qui est aussi un domaine dans lequel il y a très peu de choses en termes d'observation ou de commentaires de ce qui se passe dans les organisations internationales, et qui, à mon avis, est relativement fondamental dans la pratique et dans le rapport que ces organisations et leurs dirigeants ont avec leurs collègues et leurs mandants. Et de ce point de vue-là, c'est assez amusant, d'ailleurs, de voir que l'Union européenne est un espèce de système bancal, totalement contradictoire entre quand on désigne un membre de la Commission européenne, entre la partie sénatoriale qui est totalement obscure, westphalienne. Pourquoi décide-t-on et qui décide d'envoyer telle personne comme membre de la commission. Ça n'est écrit nulle part et jamais personne n'a eu à expliquer pourquoi ça se faisait. Et on est là dans le monde totalement diplomatique, secret, obscur, westphalien. Puis il y a un autre versant de ce processus de nomination qui, lui, a acquis de la transparence, qui sont les auditions des candidats commissaires devant le Parlement européen. Et ça, ça a été écrit nulle part. Il n'y a rien d'institutionnel ou de constitutionnel. C'est une pratique que le Parlement européen a imposée petit à petit dans sa bagarre certainement séculaire, comme toute chambre basse, pour rattraper le chemin que la chambre haute avait prise en termes d'influence dans les systèmes de décision. Là, pour le compte, de ce côté-là, c'est totalement public, puisque les candidats commissaires européens, maintenant, doivent aller devant le Parlement européen pour se justifier, pour répondre à des questions, enfin, le système d'audition à l'américaine, et que, même d'ailleurs, la dernière fois, ils ont été jusqu'à retoquer un candidat commissaire, ce qui n'était prévu nulle part dans les textes. Donc, de fait, ils ont installé, si je puis dire, de la transparence dans le système westphalien. L'OMC, de ce point de vue, d'ailleurs, est plutôt bien située en termes de transparence, puisque à l'Organisation mondiale du commerce, suite à divers développements qui n'ont pas tous été très heureux il y a une dizaine d'années, a mis en place un système dans lequel la sélection du directeur général de l'OMC se fait dans une transparence non westphalienne. Même s'il reste un petit élément, la procédure est en gros la suivante. Il faut déclarer sa candidature avant telle date. Et ça, c'est fondamental dans un processus d'élection. Ça évite tout ce qui est cheval noir doublant les chevals blancs à l'arrivée, qui est typique du système diplomatique westphalien. Ensuite, il faut faire campagne. Et ensuite, en gros, c'est un système de sélection-élection, dans lequel on indique, après consultation de tous les membres de l'OMC, à chacun des candidats qu'il ne sera vraisemblablement pas au dernier tour, et donc il devrait avoir la bonne idée de ne pas courir le tour prochain, et on fait ça autant de fois qu'il y a de candidats, jusqu'au moment où il n'en reste plus que deux, et où un candidat apparaît. Mais c'est fait de manière, finalement, beaucoup plus transparente de ce point de vue-là que ça n'était le cas et que ça n'est encore le cas dans la partie sénatoriale de l'Union européenne. J'en termine sur deux courtes observations. Une première, et ce n'est pas une coïncidence qui est très proche de ce que disait Pierre Rosanvallon à la fin de son propre exposé, la différence entre le monde westphalien et celui vers lequel doivent aller les organisations de gouvernance internationale, c'est ce passage de la diplomatie à la démocratie qu'il évoquait tout à l'heure. Et l'ingrédient essentiel du passage de la diplomatie à la démocratie, c'est la transparence. Ce qu'on appelle, nous, la transparence, ce que, dans son vocabulaire historique, Pierre Rosanvallon, tout à l'heure, appelait la publicité. C'est fondamental, et c'est, disons, la matière de base d'un système de gouvernance internationale démocratique. La matière de base, c'est la transparence. Et je puis vous assurer que, vu du côté de la salle des machines, c'est effectivement bien là que se produit l'essentiel de la vertu de la régulation, et c'est effectivement là que se produit l'essentiel des résistances à la régulation, parce que c'est dans l'obscurité que les groupes d'intérêt, et c'est parfaitement légitime dans un système démocratique, c'est dans l'obscurité que les groupes d'intérêt défendent le mieux leur propre plate-bande dans le système westphalien. Et c'est dans la transparence qu'ils ont le plus de difficultés dans un système démocratique. Et ça, c'est une conclusion, à mon avis, importante pour la suite. La deuxième, c'est qu'évidemment, tous ces systèmes, et je n'en ai pris que quelques exemples extrêmement rapides, tous ces systèmes ne sont pas stables. Le système westphalien, on l'a vu fonctionner pendant plein d'années, et il continue d'ailleurs à fonctionner largement. Le système stato-national est stabilisé, on le connaît, il a été repéré, commenté, etc. Entre les deux, ça bouge. Ça bouge tous les jours, ça bouge tout le temps. C'est un peu étourdissant, d'un certain point de vue, c'est parfois un peu fatigant, mais c'est aussi rassurant, parce que ça veut dire que les systèmes de gouvernance sont motivés par une espèce de loi de l'évolution qui dépend largement de la nature des problèmes qu'ils ont à résoudre. Et le fait que les systèmes de gouvernance évoluent avec la nature des problèmes qu'ils ont à résoudre, c'est quelque chose, je trouve, de philosophiquement assez rassurant. Mais il y a aussi une composante qui est que si cette évolution à laquelle je fais allusion, je ne vais pas faire d'évolutionnisme de bazar, mais si cette évolution du gazeux vers le solide est en train de se faire, ce qui, à mon avis, est le cas, et même si ça prendra beaucoup de temps, la seule version du solide que les acteurs ont en tête, c'est une version démocratique. Ce que cela veut dire exactement n'est pas encore tout à fait clair, notamment avec des pays comme la Chine, qui sont de gros joueurs du système maintenant. Mais je crois que c'est néanmoins une réalité que l'évolution de ce système sera formatée par le principe que le système doit être démocratique. Et je trouve que ça, dans toutes les difficultés du système de gouvernance internationale, c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci.